France Culture. Bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture. Ce soir, on va parler donc de l'université. Cette émission est réalisée par Perret Legras. Noé Chaban en assure la prise de son. Avril Ventura est adjointe à la production. Nous sommes le 20 décembre 2025. Le Sénat vient d'adopter aujourd'hui l'amendement du gouvernement qui réduit de 630 millions les crédits de l'enseignement supérieur et de la recherche. En novembre, il y a quelques semaines, 30 présidents d'université se rendaient au ministère de l'enseignement supérieur afin d'amplifier l'alerte, déjà largement donnée, sur leur situation financière. En effet, fin 2024, 60 des 75 universités françaises étaient en faillite. C'était 15 en 2022. C'est donc peu dire qu'on ne les a pas entendus, ces présidents et présidentes d'universités. Alors comment le système d'enseignement supérieur public peut-il continuer à faire face à ces difficultés financières et peut-il encore défendre son modèle quand la survie semble se poser? On va en parler de ce modèle avec nos invités. Enfin, puisque la plateforme Parcoursup vient d'ouvrir ses portes numériques, nous allons aussi nous demander, dans la deuxième partie de cette heure, à qui profitent les difficultés de l'université. Et je salue les invités de ce soir. Anne Roger, bonjour ou bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes co-secrétaire générale du Syndicat national de l'enseignement supérieur, SNESUP-FSU. Vous êtes maîtresse de conférence en STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, c'est-à-dire c'est là où on forme les professeurs d'éducation physique, mais aussi des entraîneurs, des coachs. Et c'est à l'université Claude Bernard de Lyon 1 que vous enseignez. Vous êtes très très mobilisée en ce moment sur ces histoires de financement.
Bah, ça fait un petit moment qu'on est mobilisé, mais ça dépend ce que vous appelez mobilisation, mais on est mobilisé au quotidien quand on est syndicaliste, évidemment, et puis dans nos établissements, on est aussi mobilisé parce que on fait partie des instances, on porte un certain nombre de choses auprès des présidences, auprès du ministère quand on a la casquette syndicale. Donc la mobilisation pour nous, c'est un état permanent, dirons-nous, et nécessaire.
Mobilisation permanente, alors vous allez peut-être nous dire si elle va être plus spectaculaire aussi dans les semaines et les mois qui viennent. Avec nous dans ce studio, Édouard Kaminski, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'Université Paris-Cité, une des universités parisiennes, professeur de volcanologie physique, j'ai pas l'habitude de dire volcanologie dans Être et Savoir, à l'Institut de Physique du Globe de Paris, membre de France Université et de l'Association des Universités de Recherche Intensive. On va aussi parler de recherche ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire être en faillite pour une université ?
Être en faillite pour l'université, ça veut dire à la fin de l'année se retrouver avec un budget qui ne permet pas de payer l'ensemble des coûts de fonctionnement, voire des salaires au sein de l'université. Et ça veut dire aller chercher dans les maigres réserves que nous avons et qui devraient servir à notre investissement immobilier. C'est ça la situation aujourd'hui.
J'ai posé une question très prosaïque, mais quand on s'intéresse à la vie de l'enseignement supérieur, on entend parler de problèmes de bâti, de problèmes de chauffage. Est-ce que c'est ces budgets très serrés, voire en déficit, qui expliquent la misère au quotidien de certains bâtiments et cette absence de chauffage dans certaines salles, certains amphis?
Alors c'est vrai, la crise en Ukraine a fait exploser les coûts de l'énergie. C'est plusieurs millions d'euros qui sont nécessaires dans les universités pour pouvoir chauffer les salles, etc. Donc sur le court terme, il faut déjà trouver l'argent. Et sur le long terme, il faut isoler les bâtiments, les rénover. Or, sans argent, on ne peut ni rénover les bâtiments, ni les chauffer.
Et ça aussi pose des questions sur le futur de ces bâtiments universitaires. On rentre un peu dans le détail des chiffres du vote du Sénat, si vous voulez bien. Oui. Donc, à la lecture de l'amendement, je me réfère à la chaîne Public Sénat. Donc, 219 millions d'euros de moins pour la recherche dans les domaines de l'énergie, du développement durable et de la mobilité, durable aussi. 129 millions de moins pour le programme Recherche scientifique et technologie pluridisciplinaire. 106 millions de moins pour la recherche spatiale, 55 millions de moins sur le programme formation supérieure et recherche universitaire et moins 8,3 millions d'euros sur la vie étudiante. Qu'est-ce qui est le plus grave? Est-ce que ça concerne la vie de votre université Paris Cité? Qu'est-ce qui va demain, plutôt dans les mois qui viennent, changer avec, ou pas d'ailleurs, avec ces économies?
Alors cet amendement du Sénat, il est assez emblématique de la mauvaise façon de se projeter dans l'avenir. Parce que ce que vous pourriez rajouter, c'est que cet amendement rajoute 100 millions d'euros.
Sur le CNRS et donc la recherche.
Voilà, en plus. Et par contre, en plus de ces 600 millions d'économies, il y a 100 millions d'euros qui sont donnés aux universités pour pouvoir, en partie, compenser les augmentations salariales qui ont été décidées par le gouvernement. Donc on choisit de couper la recherche, vous avez cité le spatial, vous avez cité la transition écologique, c'est-à-dire d'obérer l'avenir pour résoudre un problème de trésorerie qui est aujourd'hui les salaires à l'université qui ne sont pas couverts par notre budget.
Alors, qu'est-ce que ça signifie les salaires à l'université? Ça veut dire qu'on ne peut plus payer des profs? Est-ce qu'on paye à la place quand on a besoin d'enseignants? Parce qu'on a besoin d'enseignants. Ce sont des vacataires, c'est un énorme problème pour l'université. Aujourd'hui, le recours aux vacataires, Anne-Roger, c'est un problème global. Est-ce que c'est un problème pour les STAPS de Lyon?
C'est d'abord un problème global dans la mesure où on a à peu près 25 000 heures à faire et qu'on a déjà 5 millions d'heures supérieures qui sont faites par les titulaires et 5 millions d'heures qui sont faites aussi par des vacataires. À l'Université Lyon 1, on a un taux de couverture par les titulaires de 54%, me semble-t-il.
C'est beaucoup plus que les 20% dont vous venez de parler, 54%. Donc c'est majoritairement des professeurs non titulaires qui assurent
les enseignants. Titulaires. Un taux de couverture par les titulaires de 54%.
D'accord.
Donc le reste, c'est forcément des vacataires ou des contractuels. Donc c'est beaucoup beaucoup plus, oui, c'est plutôt beaucoup plus. À l'université, en STAPS, on a un taux d'encadrement qui est ridicule, hein, puisque on a un taux d'encadrement de un enseignant pour ça peut aller de 30 à 70 à Valenciennes ou à Amiens. Donc il manque des profs et donc pour permettre de faire des cours, il faut qu'on ait recours à des vacataires. Donc, j'ai entendu que vous évoquiez moins 55 millions pour la formation, par exemple. Moins 55 millions pour la formation, c'est globalement 1000 postes qui sont pas pourvus, par exemple. Si on veut regarder un petit peu ce qu'il en est. 1000 postes pas pourvus, ça veut dire qu'on a des effectifs d'étudiants qui augmentent et des postes qui n'arrivent pas pour les encadrer. Donc, comment on fait? On n'a pas d'autre choix que de faire appel à des vacataires et à des contractuel. Alors en soi, ce serait pas forcément négatif.
C'est ça ma question.
Sauf que, oui, voilà. Bon, à ce moment-là, je vous la laisse me la poser et j'y réponds.
Mais qu'est-ce que ça change, par exemple, pour les étudiants d'avoir affaire à des vacataires ou à des professeurs titulaires?
En fait, ça change la philosophie globale ou en tout cas l'organisation de la formation. Donc, quand on est vacataire, on n'est forcément pas au quotidien dans l'équipe pédagogique parce que être vacataire, ça veut dire que en général, on a un autre boulot à côté parce que il faut bien vivre et que tous les échanges qu'on peut avoir avec l'équipe pédagogique, en général, on peut pas trop y participer. En plus, comme souvent, si on est que vacataire, on est un peu précaire et donc il faut bosser par ailleurs et donc on a un petit peu moins de temps pour se poser, pour être serein. Donc, la question du turnover et du manque de sérénité, c'est pas quelque chose qui rend plus efficace un enseignement. Un enseignement efficace, c'est un enseignement qui est réfléchi collectivement, de façon posée, et pour lequel on a le temps de travailler en amont. Parce que avant un cours, il faut préparer le cours. Et préparer le cours, ça se fait collectivement. Et aujourd'hui, on n'a plus le temps du collectif. Et en plus, le collectif est éclaté parce que les vacataires ne peuvent malheureusement pas, c'est pas parce qu'ils veulent pas, mais ne peuvent pas contribuer à ce travail collectif qui est nécessaire pour optimiser la formation.
Collectif et pédagogique, on va revenir à cette question. Édouard Kaminski, pour vous, en tant que président, qu'est-ce que signifie ce recours aux vacataires, ces contractuels donc qui sont plus précaires et auxquels vous êtes obligé de faire appel parce que c'est moins cher. D'ailleurs, quelle est la différence en termes de coûts? Et est-ce que ça déstabilise l'équilibre de votre université Paris-Cité?
Alors, effectivement, des vacataires ont un coût de 50% moins important que les personnels titulaires, simplement pour les cotisations sociales qui sont nettement moins importantes. C'est difficile de construire sur le long terme une offre pédagogique avec des vacataires. Par exemple, nous avons la réforme du bac qui a fortement fait évoluer le niveau des étudiants et qui nécessite aujourd'hui un vrai accompagnement des équipes pédagogiques, une adaptation des équipes pédagogiques. Quand vous avez un vacataire qui n'est là qu'une partie du temps, que sur quelques années, c'est beaucoup plus difficile pour lui de digérer l'impact de ces réformes. Et puis, la deuxième chose, c'est que le pilier de l'université, c'est la formation qui s'ancre, qui se nourrit par la recherche. Par définition, un vacataire, c'est quelqu'un qui n'est pas dans un laboratoire de recherche le plus souvent. C'est quelqu'un qui vient de l'extérieur. Donc, on affaiblit ce pilier recherche qui doit nourrir systématiquement la formation.
Mais ces personnels enseignants, ce sont aussi des gens qui aimeraient être titulaires. C'est pas des gens que vous rencontrez dans la rue. Ce sont souvent des jeunes chercheurs, voire même plus très jeunes, qui espèrent avoir des postes.
Alors, il y a trois types de vacataires. Il y a d'abord des vacataires dans les services administratifs et techniques. Il ne faut pas oublier ces vacataires-là, qui sont aussi des personnes en précarité dans nos laboratoires, dans nos services de scolarité, qui ont un rôle indispensable parce qu'ils permettent d'accompagner les chercheurs d'un côté, les étudiants de l'autre. Le deuxième type de vacataires, ce sont des personnes issues d'un milieu professionnel, qui interviennent dans nos formations professionnalisantes, justement pour construire ce lien entre le monde socio-économique et l'université, contribuer à une insertion professionnelle de qualité de la part de nos étudiants. Et ces personnes-là, elles ne peuvent être que vacataires, et c'est une très bonne chose. Et vous avez cette troisième catégorie, qui sont effectivement très souvent ces jeunes chercheurs qui ont fait une thèse, qui ont souvent fait des stages postdoctoraux, qui essaient de trouver un poste, et qui restent dans cette situation précaire à laquelle vous faisiez allusion, qui souhaiteraient rejoindre l'enseignement supérieur et qui, faute de poste, se contentent de vacations. Et ça ne peut pas durer sur le long terme pour ces personnes, c'est sûr.
Des situations sociales, mais aussi psychologiques, qui sont extrêmement difficiles et qui sont documentées. Alors, on va écouter une enseignante et puis je vous ferai réagir. Anne Roger, c'est Rita Novas Miranda. Elle enseigne la littérature à Paris 3. Et elle va nous parler des difficultés qu'elle rencontre dans sa vie de tous les jours, dans son département de littérature, à la fois avec ses élèves. Et on parlait des questions pédagogiques, mais aussi dans l'organisation du travail.
On a une charge de cours qui est extrêmement élevée. Et soit on recourt à des enseignants précaires, à des chargés de cours, des vacataires, soit on le prend aussi un peu sur nous parce qu'on est des équipes souvent assez petites. Et en même temps, on a aussi beaucoup de responsabilités administratives qui sont extrêmement chronophages. Par rapport à tout ce qui est le rapport aux étudiants et étudiantes, répondre à des mails infinis, tout ça. Et en même temps, on est enseignant et enseignante, chercheuse.
Parlons des étudiants. Ces étudiants, donc en littérature, quel est leur profil? Comment ils sont arrivés chez vous? Quel est leur niveau, si on peut parler de niveau? Et qu'est-ce que ça implique?
Avec Parcoursup, ce qui est arrivé, c'est que nous recevons beaucoup d'étudiants et étudiantes dont leur premier choix, c'est pas la filière où ils se retrouvent. Et donc, très souvent, ils ne sont pas vraiment préparés ou ils n'ont pas envie, c'est ce qui est parfois un peu compliqué aussi, de suivre les enseignements dans l'endroit où ils sont. Il y a beaucoup, beaucoup de réorientation, mais on a une tâche qui est un peu ingrate, pour être sincère, un peu d'aller les chercher là où ils sont et pas partir d'où on pense, entre guillemets, où on pensait qu'on devrait être souvent.
Ça veut dire que vous avez des étudiants qui maîtrisent mal l'écrit. On parle d'enseignement, la littérature.
Oui. Mais après, je pense qu'il y a un travail qu'on a tous et toutes à faire de réflexion sur ce rapport-là à l'écriture, auquel je tiens énormément. Mais il y a une pensée à faire. Évidemment, ils arrivent avec une culture générale qui est lacunaire, on le sait, parce qu'on reçoit à l'université le plus souvent des étudiants et étudiantes qui viennent des milieux défavorisés, qui ne viennent pas avec cette culture-là qu'on attendait. Culture générale, une culture par rapport à tout ce qui est à la lecture, au rapport au livre, etc., au rapport à la recherche. Tout ça, aujourd'hui, est en train de changer. évidemment, avec l'intelligence artificielle qui est très, très récente, en fait, mais qui est si récente, mais dont on voit que les habitudes, elles étaient déjà là, et là, elles sont encore plus en train de changer. Et nous, je pense que le grand défi, c'est où on se trouve entre accueillir, évidemment, le monde et être dans le monde où on vit, et en même temps, il y a une résistance nécessaire à ça aussi. Mais oui, les étudiants arrivent avec des difficultés par rapport à l'écriture, à l'écrit, qui sont évidentes. Il faut aller les chercher. C'est ça qui est difficile, les chercher à un endroit où ils ne sont pas, auquel ils résistent beaucoup. Je ne veux pas être pessimiste parce que j'adore ce que je fais. Il y a une partie de cette difficulté-là qui me met moi-même en question. Et j'apprécie ça, mais c'est dur, il y a une partie, c'est dur, oui.
Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Qu'est-ce que vous aimeriez, en fait, qu'il arrive pour l'université aujourd'hui?
Qu'on ait du temps, qu'on ait plus de temps. Et du temps, ça veut dire des moyens, ça veut dire des personnes, pour qu'on puisse faire vraiment un peu honorer ce qui est cette idée d'être enseignant-chercheur, de faire à la fois enseigner et faire de la recherche et que les deux se nourrissent mutuellement et apporter ça à nos étudiants, pouvoir penser à eux, c'est vraiment une question de temps et de sérénité.
Formidable, je trouve. Rita Novas Miranda, donc enseignante de littérature portugaise à Paris 3. Anne Roger, dans cette émission consacrée à la vie, voire la survie de l'université en ces temps difficiles, on a parlé des finances. Comment résonnent pour vous ces propos? On a parlé du niveau des étudiants, mais aussi de leur orientation.
Oui, bah je trouve le témoignage de Rita extrêmement touchant dans la mesure où il est au cœur du sens de notre métier et que de plus en plus chaque jour ce sens-là il est remis en cause. Elle évoque, elle le dit pas comme ça, mais en gros c'est quand même une passion et un engagement total avec un seul objectif qui est de faire progresser les étudiants. Donc ça, je trouve que c'est vraiment partagé par nombre de collègues. Elle a dit quelque chose aussi que peut-être il faut ne pas oublier de redire. Elle a évoqué la question de la recherche, hein, le fait que la surcharge de travail empêche des collègues qui sont venus à l'université pour enseigner et faire de la recherche, de faire de la recherche. Et ça heurte de plein fouet leur projet initial. On a quand même un tiers de plus, en gros, hein, de services faits par les titulaires. Donc c'est globalement une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'heures, soixantaine d'heures, ça dépend du service initial, mais ça peut aller jusqu'à 100 heures complémentaires, qui empêchent de faire de la recherche et qui empêchent donc de faire son métier, en fait. Hein. On est sur un métier empêché. Donc c'est vraiment important de le souligner parce que la souffrance s'aggrave de plus en plus et que on est sans arrêt tiraillé entre faire nos travaux de recherche et puis quand même préparer des cours pour tous les étudiants et essayer de faire en sorte de les accompagner, parce que la question de l'écriture qui est évoquée à un moment donné, des difficultés d'écriture, etc., ça c'est une réalité, mais on ne peut pas mettre ça on ne peut pas rendre responsable juste ce qui s'est fait avant. Nous, à l'université, on a la responsabilité, dès lors que les étudiants sont à l'université, de les accompagner, de les faire réussir. Et cet accompagnement des étudiants, c'est pareil, on n'a pas les moyens de le faire, des moyens humains, parce que ça nécessite des moyens humains et pas juste éventuellement un travail à distance avec des capsules en visio, etc., etc. On a un gros travail à faire sur l'accompagnement des étudiants. Je trouve que ce que dit Rita est vraiment très humain. Et nous, ce qu'on souhaite faire, c'est continuer à pouvoir faire notre métier, qui est un métier humain et de relation avec les étudiants. C'est pas quelque chose qu'on fait dans une entreprise avec un produit qu'on a face à nous et qui s'en va et auquel on ne pense plus une fois qu'il n'est plus en face de nous, quoi. C'est un métier de tous les jours, y compris du week-end, le métier d'enseignant et de chercheur. C'est même un métier de vacances. Donc voilà. Donc je trouve que oui, ça résonne beaucoup. Je pourrais en dire encore un peu plus, mais bon.
On va...
Juste peut-être sur la question de la motivation, oui, sur Parcoursup, parce qu'elle dit qu'elle a qu'elle a des étudiants qui arrivent et qui sont pas forcément motivés. C'était du portugais qu'elle évoquait, je sais plus si elle évoquait ça. Évidemment, puisque Parcoursup, à partir du moment où il fait une proposition aux étudiants qui n'est pas forcément le premier vœu qui est obtenu, bah, des étudiants qui avaient demandé STAPS et qui se retrouvent en portugais, par exemple, bah, forcément, ils sont pas motivés. Donc ça pose aussi la question de l'orientation et du manque de place dans les filières choisies par les étudiants.
Oui, parce que ce grand écart donc que vous avez tous décrit, hein, d'ailleurs. Alors, c'est Rita Novas Miranda. Je ne sais pas si vous vous connaissez, Anne Roger. En tout cas, on ne vous a pas du tout trouvé par le même biais, toutes les deux. Ce grand écart, donc, à la fois bah, enseigner sa discipline, faire de la remédiation scolaire, hein, parce qu'on est sur des connaissances un peu de base, et puis la recherche, qui est aussi le travail de l'université. C'est presque une mission impossible. En tout cas, on entend qu'elle est difficile. Est-ce qu'elle est rendue plus difficile par Parcoursup, la manière dont les étudiants arrivent dans les diverses formations, sachant que bah, toutes les formations ne sont pas logées à la même enseigne, hein. Certains sont plus sélectifs que d'autres. Et pour terminer ma question, puisqu'avec Parcoursup, eh bien, l'université aussi est devenue sélective en quelque sorte. Avec des universités qui sont perçues comme plus prestigieuses, où tout le monde n'aura pas la place qu'il désire avoir. Je reprends. Oui, vous pouvez y aller, Edouard Kaminski. Pardon, reprenez.
Oui, donc, alors, je vais avoir un discours un peu modéré hein, sur Parcoursup. Je pense que Parcoursup n'est pas un problème. Il peut être révélateur. Je préfère Parcoursup, qui indique les prérequis pour réussir sa formation en mathématiques, en sociologie, en langue, plutôt que le système que nous connaissions avant, où je rappelle, il y avait du tirage au sort, parce que de toute façon, Parcoursup n'a pas supprimé de place. Donc, quand votre amphithéâtre est plein...
Mais il y a plus d'étudiants, alors... Ça va se tasser.
Alors, on arrive au pic. Sur l'Académie de Paris, nous avons à peu près autant d'étudiants que de places à Parcoursup. Donc, on est, dans un équilibre dynamique. Je continue à penser qu'une grande explication de l'échec, c'est la difficulté de compréhension de l'orientation. Donc, dans l'orientation, il y a ce que l'on souhaite faire, ce que l'on est capable de faire. Et je pense que notre travail à nous, c'est d'accompagner les étudiants vers des voies qui les intéressent et qui leur sont accessibles. Ce que je disais souvent à mes étudiants, c'est quand vous débutez le ski, vous n'allez pas vous lancer sur une piste noire. Aujourd'hui, on peut avoir des étudiants qui candidatent pour un parcours de sciences physiques, alors que, par exemple, ils n'ont pas suivi la spécialité mathématiques en lycée. Ce ne serait pas leur rendre service de les accueillir dans ces formations. On préfère leur proposer une année de transition et puis ensuite des passerelles. Donc, tout notre travail, c'est de gérer l'hétérogénéité des candidatures, mais pour autant, considérer que proposer de rentrer dans une formation, c'est directement un laisser-passer vers la réussite, ce serait une erreur.
Mais c'est étrange, ça fait vraiment des décennies qu'on reporte en fait la difficulté de l'université aussi sur les étudiants qui savent pas s'orienter. On parlait encore il y a quelques mois de commencer à parler d'orientation en cinquième. Mais ce que disent beaucoup de familles, parce que les parents aussi sont partie prenante dans cette histoire, c'est que c'est pas facile de savoir ce qu'on veut faire quand on a 17 ans pendant son année de terminale, 17 ans puis 18, et que ce n'est pas facile, même après, de mesurer, en fait, par rapport à la formation dans laquelle on se trouve, si c'est fait pour nous ou pas. Est-ce que c'est pas un peu normal, cette histoire de réorientation d'ailleurs qui est très commune dans les classes préparatoires?
Tout à fait. Et on est très nombreux à l'université qui nous inscrivons en faux dans cette idée que la réussite, c'est forcément une licence en 3 ans. La licence en 3 ans, c'est quand on a trouvé la bonne filière dès le départ. Nous considérons que la réussite, c'est d'avoir pu mener son parcours jusqu'à la licence, quitte à avoir fait une ou deux réorientations du moment qu'elles sont positives. Donc oui, la réorientation fait partie du dispositif. Plus on se spécialise tôt, moins on a de capacité à se réorienter. Et c'est vrai que dans ce sens, la dernière réforme du baccalauréat est probablement pas une bonne chose. On préférerait que les étudiants aient un socle de connaissances et de compétences qui leur permettent de se réorienter.
La réforme, alors, elle peut sembler récente, ça dépend quelle relation on a avec le sujet école, mais c'est vrai que cette réforme, dite réforme Blanquer du bac, consiste à prendre 3 spécialités en première quand on suit un bac dit général, et 2 en terminale, donc c'est assez ténu, en fait. Par exemple, on va prendre mathématiques et physique si on souhaite fréquenter une des formations scientifiques qui sont nombreuses à Paris Cité, mais pour STAPS, on va en prendre d'autres. Enfin, il y a quand même une relative stabilité, c'est cette prédominance des mathématiques. Anne Roger, vous les sentez bien préparés depuis longtemps, ils s'orientent depuis longtemps en STAPS. STAPS, c'est plutôt demandé, donc. Je parle des étudiants, ils et elles, d'ailleurs.
Oui, bien sûr, il et elle, il y a 25% de filles, hein, seulement en première année, donc c'est plutôt pour le moment demandé par les garçons. Mais moi, je voudrais quand même réagir un petit peu, parce que Parcoursup, c'est quand même un énorme changement par rapport à APB, qui était le précédent outil. Pour nous, c'est énormément de travail en plus. Si je reste sur les STAPS à Lyon, on a eu 6000 dossiers globalement cette année, ou l'année dernière, puisqu'on n'a pas avant la rentrée, on a classé 3000, enfin on a traité 3800 dossiers pour en retenir 600. Avec des étudiants, donc on classe des dossiers avec des étudiants dont on ne connaît pas la hiérarchisation des vœux, parce qu'on ne sait pas si quand ils demandent STAPS, c'est ce qu'ils veulent vraiment, ou c'est en dépit parce que ils ont fait 12 000, j'exagère, ils ont fait plein de demandes pour être sûr d'être pris quelque part. Et nous, ça on le sait pas, donc on classe. Alors qu'avant, sur APB, il y avait une hiérarchisation des vœux, donc on traitait dans l'ordre, en fait. Donc là, ce qui est énorme, c'est qu'on a un travail qui est multiplié, mais par c'est énorme le travail qui est fait, le tout sans être rémunéré, évidemment, avec globalement des dossiers pour lesquels on peut mettre qu'une minute, quoi, pour traiter les dossiers. Donc c'est pour nous, ça va pas du tout, quoi. Enfin, c'est vraiment une catastrophe, parce que ça donne en plus des critères, enfin on met en place des critères qui sont complètement inégalitaires et opaques, parce que dans telle composante on va mettre ces critères là, dans d'autres composantes on va mettre ces critères là, donc c'est profondément injuste. Et le tirage au sort dont parlait monsieur Kaminski, ça ne concernait que les filières en tension, et ça ne concernait que 1 à 2% des étudiants. Donc pour 1 à 2% des étudiants, on a fait une réforme structurelle qui cette fois-ci devient inégalitaire pour tout le monde, parce que ça ne règle pas la question des bons étudiants qui n'ont pas, des bons élèves qui n'ont pas ce qu'ils veulent, parce que justement la hiérarchisation n'est pas présente. Donc pour nous, on a remplacé un système qui était injuste, pas pour la majorité des étudiants, par un système qui est profondément injuste cette fois-ci, et qui est qui est pas transparent. Donc c'est pas hyper satisfaisant. Alors votre question initiale, je l'ai oubliée, je suis désolée, c'était pas celle-là, mais ça je voulais le dire quand même. Parce que c'est pas satisfaisant du tout, et en plus on en laisse sur le chemin un certain nombre, hein, puisque il y a 34 000 étudiants qui abandonnent l'année dernière, il y en a 46 000 qui sont sans proposition, ça fait près de 80 000 dont on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Et les 40 000 qui s'inscrivent pas sur Parcoursup au départ, on ne sait pas pourquoi ils l'ont pas fait, on ne sait pas s'ils vont directement dans le monde du travail, on ne sait pas s'ils sont partis dans le privé. Donc c'est pas sérieux la façon dont c'est traité, en fait. La première des choses, c'est de se demander quel est le projet des étudiants, qu'est-ce qu'ils demandent à faire, parce qu'ils ont aussi le droit d'avoir un projet, ils ont le droit à l'erreur, et on est garant de leur projet, normalement. On doit pouvoir leur donner les moyens de réaliser leur projet avec plus ou moins de temps. Mais ça, c'est pas fait, parce que sans hiérarchisation des vœux, on ne peut pas évaluer le taux de satisfaction des étudiants.
Alors, je m'arrête sur un point. Vous me direz, Edouard Kaminski, si vous voulez répondre sur Parcoursup. Mais au moment où, on l'a dit, l'emploi est énormément en tension, c'est vrai que ça prend du temps aux universités de trier les dossiers. Enfin, je ne sais pas si le mot tri est vraiment le plus approprié. En tout cas, de choisir les candidats, parce que il y a des dossiers, il y a des lettres de motivation. Et puis, ça crée aussi beaucoup d'inégalités. J'aimerais bien qu'on s'arrête aussi sur ce point, entre des filières plus demandées et d'autres moins demandées, et aussi des universités plus demandées et moins demandées. Paris Cité. Alors tout à l'heure, j'ai dit Paris 3. En fait, c'était Sorbonne Université. C'est sûr que c'est difficile de se repérer quand on a été étudiante dans les années 90 à Paris, mais c'était Sorbonne Université. Et vous, c'est Paris Cité.
Donc c'est vrai que aujourd'hui on recrute sur un bassin national et que toutes les universités n'ont pas la même attractivité. Mais c'est aussi la transformation de ces universités. Donc pour mon université, nous sommes issus de la fusion entre les universités Paris Descartes et Paris Diderot. Nous sommes devenus une grande université qui est bien classée à Shanghai, qui est très visible
à l'international. Grâce à cette fusion, hein, qui
tout à fait. On a fait des efforts énormes. Et je salue d'ailleurs à cette occasion les personnels de l'université qui ont porté cette fusion à bout de bras. Ça a été beaucoup d'efforts pour créer une université de rang international. Et nous sommes très attractifs nationalement et internationalement.
Est-ce que ça peut être aux dépens, puisque vous faites partie de France Université, d'université perçue comme plus pauvre ou moins désirable? Là, je ne vais pas donner de nom, mais on sait que les difficultés financières sont extrêmement importantes pour des institutions plus petites. Je pense à Montpellier 3, il y a la faculté de Rennes aussi qui est en très forte difficulté. Vous en parlez entre président et présidente d'université?
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les universités se sont différenciées. Et normalement, aujourd'hui, chaque université est capable de mettre en avant, par rapport à son territoire, ses facteurs d'attractivité.
Donc c'est une compétition ?
C'est pas une compétition, c'est une différenciation. C'est-à-dire que vous n'allez pas à l'université de Montpellier 3 pour la même raison que vous allez dans une université parisienne. Vous savez très bien que ce ne sera pas tout à fait le même choix de vie, que ce ne sera pas le même accès aux disciplines. Mais vous le faites en connaissance de cause, c'est ça qui est important. Par contre, quand vous mettez à l'échelle du budget des universités leurs difficultés, vous n'avez plus d'hiérarchie entre les universités. On peut pointer le fait que les universités qui sont le plus en déficit aujourd'hui, c'est l'université de Paris-Saclay, Sorbonne Université, l'université Paris-Cité. Pourquoi je les donne dans cet ordre? Parce que ce sont des universités très bien classées au classement de Shanghai, c'est celles qui ont une très grosse activité de recherche, et aujourd'hui, plus vous avez d'activités de recherche, plus vous avez des coûts de fonctionnement importants et plus vous êtes en déficit.
Donc vous devez être très inquiet avec ces coups de rabot sur la recherche qui viennent d'être annoncés.
Alors, je ne suis pas inquiet pour mon université. Parce que les universités sont résilientes et elles font beaucoup d'efforts pour continuer à accueillir les étudiants et à développer leurs activités. Je suis inquiet pour mon pays, en fait. Un pays qui tourne le dos à la recherche, il tourne le dos à l'innovation. Si on n'a pas de recherche dans notre pays aujourd'hui, dans 10 ans, nous n'aurons pas les brevets qui auront changé les technologies, nous n'aurons pas les nouveaux vaccins, nous n'aurons pas les nouveaux traitements contre le cancer, nous n'aurons pas de politique publique éclairée par la recherche en sociologie, nous n'aurons pas l'accompagnement nécessaire pour que notre pays se modernise. On ne va pas réindustrialiser la France, on va la néo-industrialiser avec des nouvelles technologies qui sont développées dans les laboratoires de recherche. Donc si on arrête la recherche aujourd'hui, on tue l'innovation de demain et on va paupériser le pays.
Anne Roger, dans quel état d'esprit et presque état psychologique sont les étudiants d'aujourd'hui? On parle beaucoup de santé mentale. Est-ce que on peut faire le lien, alors sans dire que évidemment hein, c'est les économies dans l'université qui créent des malaises chez les étudiants, mais est-ce que ça crée aussi une ambiance autour des études qui est pas très positive et peut-être qui rend pas très optimiste, sinon les profs, ça on a entendu, mais aussi la jeunesse et les étudiants auxquels vous avez affaire, qui s'expriment assez peu hein, ces derniers mois sur les problèmes de l'université.
Mais je pense qu'on a des étudiants qui sont face à nous et qui sont un petit peu perdus. Je crois que le Covid la rupture qui s'est opérée au niveau pédagogique avec la mise en place de l'enseignement à distance a été une catastrophe dont on n'est pas revenu pour le moment. Et ça a vraiment isolé un certain nombre d'étudiants qui étaient déjà fragiles et qui ont perdu l'habitude de travailler ensemble et de faire confiance aux autres. Et ça, c'est catastrophique. Sur la question des cours en visio, là encore, c'est très compliqué parce qu'on a des étudiants qui sont de plus en plus fragiles et qui nécessiteraient davantage d'accompagnement, mais qu'on voit de moins en moins et qu'on a de moins en moins les moyens de suivre. Je ne parle pas non plus du service médical de prévention de nos établissements, mais chez nous, il y a une médecin. Donc, avec 40 000 étudiants, on n'est pas prêt de les suivre complètement. Mais si j'en reste au niveau pédagogique, c'est vraiment une souffrance, y compris pour les enseignants, parce qu'on voit bien que les étudiants sont le regard vide. Pour certains, ils viennent, mais on ne sait pas pourquoi ils viennent, parce qu'ils se connectent, ils sont connectés sur autre chose que le cours. Ils sont là parce qu'on leur a dit d'être là, mais ils ne sont pas acteurs. Et ça demanderait vraiment qu'on puisse les suivre beaucoup plus fréquemment, avec beaucoup plus de moyens, avoir de la discussion, etc. Ce qu'on n'a pas, quoi.
Et la vie.
Je voulais juste peut-être aussi réagir simplement sur la question du budget, parce que ce que disait Monsieur Kaminski il le disait pas comme ça, mais sur la question des subventions, il n'a pas évoqué les subventions de charges pour services publics. Vous savez, les universités reçoivent un certain nombre d'euros par étudiant pour accueillir les étudiants. Mmh. Et ce qui est assez notable, c'est que on a même là-dessus, sur quelque chose qu'on pourrait se dire, c'est le service public, tant d'étudiants. Ça fait tant d'euros perçus par les universités. Ben non, parce que ces subventions pour charges du service public, par exemple à Angers, il y a 5 940 euros par étudiant. Donc l'université d'Angers touche par étudiant inscrit 5 940 euros. Et à Sorbonne Université, pour un étudiant, l'université touche 10 900 euros pour un étudiant. Donc les étudiants d'une même discipline, contrairement à ce qu'on pourrait penser et à ce que devrait permettre le service public, n'ont pas le même financement par l'État. Donc en fait, les étudiants à Angers, ils ont moins de chances d'être bien encadrés qu'à Sorbonne Université, où il y a plus d'agents pour les étudiants. Donc même ça, c'est compliqué, quoi. Donc vous voyez que cette santé mentale des étudiants et l'accompagnement des étudiants est loin d'être gagné et d'être amélioré pour le moment.
Alors rapidement, mais c'est fou cette différence en fait de crédit, parce que il n'y a pas que l'État qui peut donner aussi de l'argent aux universités. Il y a les collectivités locales, il y a même du mécénat aujourd'hui. Vous cherchez de l'argent, vous et pas seulement vous, Édouard Kaminski, les présidents d'universités. Qu'est-ce qui explique ces inégalités?
Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nos universités ne peuvent pas fonctionner uniquement par la subvention qui est donnée par l'État. Donc on développe ce qu'on appelle des ressources propres. Dans mon établissement, un quart du budget provient de ressources propres, qui sont soit des appels à projets à recherche que l'on a obtenus, soit en France, soit encore mieux à l'Europe, parce que je rappelle que la France finance davantage la recherche en Europe que l'Europe finance de projets français, faute de candidatures suffisantes. Donc il y a des marges de progrès à ce niveau. Et puis, nous allons aussi chercher la coopération avec des entreprises. Je parlais d'innovation tout à l'heure. Il y a des entreprises qui ont besoin de s'appuyer sur l'université et de faire de la recherche partenariale pour développer de nouvelles technologies. Et puis enfin, nous faisons appel au mécénat. Alors c'est vrai qu'en France, contrairement aux États-Unis ou en Angleterre, le mécénat en direction des universités n'est pas encore très développé. On a du mal à se dire qu'en France...
Au départ, on est plutôt du côté du service public et du financement public, donc moins dans la culture. Voilà. On va continuer à parler d'argent, parce que aujourd'hui, le nombre d'étudiants dans les filières privées payante, et entre 6 000 et 20 000 euros une année dans une école du supérieur privé, augmente. Il s'est passé à presque un quart des étudiants, et parmi ces formations, les formations à but lucratif, on y consacrait une émission il y a à peu près un an, on peut la réécouter évidemment en podcast. Alors comment expliquer le succès de ces formations payantes qui ne se dément pas? J'ai voulu en parler avec un tout jeune chercheur, Mathis Dacquino. Donc il est chercheur en sciences politiques à Sciences Po Bordeaux, spécialiste de la privatisation de l'enseignement supérieur.
L'université, elle est menacée, entre guillemets, par la montée de l'enseignement supérieur privé, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le privé se positionne sur une communication anti-universitaire, notamment via des publicités qui tapent sur l'université, sur le caractère non professionnalisant, sur le caractère amorphe des formations universitaires qui ne sont pas agiles, qui conduiraient les étudiants à ne pas être employables. Ce sont des discours qui, dans les salons, passent par des phrases comme « n'allez surtout pas à la fac, cette communication agressive, ça peut même qualifier de prédation marchande, qui est proférée dans les salons de l'orientation, contribue en fait à perpétuer une croyance dans des formations universitaires qui seraient amorphes, qui seraient non professionnalisantes. Donc c'est un nouveau segment effectivement de l'économie qui a plusieurs caractéristiques. C'est d'abord, il est agile. Il peut se positionner sur des niches sectorielles très précises, le digital, la communication, le droit, soit sur des niches très sélectives, comme le droit, la science politique, les relations internationales, soit sur des niches peu prises par le public, la communication, le digital. C'est un marché qui est aussi contracyclique, parce que quand l'économie va mal, on investit dans l'éducation de ses enfants et on veut qu'ils trouvent un emploi rapidement, etc. Et c'est un marché qui a une forte visibilité. Puisque pour prendre la citation d'un ancien directeur d'école de commerce, un étudiant c'est comme du béton, lorsqu'il est posé, il bouge plus. Lorsqu'on capte un étudiant en première année de bachelor, eh bien il a une forte probabilité de rester au moins jusqu'à la troisième année, ou de poursuivre en master, dans la même école. Donc les investisseurs sont très attirés par ces trois éléments, agilité, visibilité, et par la captation justement des financements publics depuis 2018.
Ça veut dire qu'un master, c'est pas un master, expliquez-nous.
Un master, c'est un...
Ça s'écrit comment déjà ?
Alors, ça s'écrit de plus... Alors, j'ai vu plusieurs manières, mais la plus répandue, c'est donc M-A-S-T, accent grave, R-E. Donc, ça se prononce master. Mais justement, à l'oral, master, on fait très peu la différence. Et c'est sur ce flou terminologique que joue l'enseignement supérieur privé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un master ? C'est un diplôme maison qui est délivré par une formation privée d'enseignement supérieur. Donc de niveau bac plus 5, alors ils disent de niveau bac plus 5, mais de durée bac plus 5. C'est-à-dire que une fois qu'on a terminé une formation de premier cycle, on peut candidater, en payant des frais de scolarité très importants, à un master. Et c'est développé en fait tout un halo terminologique autour de ces noms de diplômes. Pour le premier cycle, c'est essentiellement bachelor, mais pour le second cycle, Master of Science, Master of Business Administration, Master spécialisé. Et les étudiants ne s'y retrouvent pas, et les familles non plus d'ailleurs, avec un flou terminologique très très important. Et donc un master, ce n'est pas reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est parfois adossé à un titre RNCP, donc un titre à vocation professionnelle, mais ça ne donne pas droit, par exemple, à passer certains concours comme le concours du barreau. Et des écoles spécialisées en droit qui se sont montées ces dernières années vendent, en tout cas dans leur publicité, des formations qui sont faites par des avocats, qui sont même proposées directement par des avocats. Hein. Le chef d'entreprise, le directeur de l'école, pour le dire en ces termes-là, est un avocat, par exemple, monte cette école-là, sauf que les candidats, les détenant un master, ne peuvent pas avoir accès au concours du barreau, faute de diplôme national.
Donc, les investissements publics, si on compare un peu les budgets, déjà, est-ce que vous pouvez nous donner des ordres de grandeur ?
Le budget du CNRS, par exemple, c'est 4 milliards d'euros par an. La politique pour l'apprentissage, c'est 25 milliards d'euros. C'est légèrement plus, en tout cas sur les chiffres de 2022, que les charges de services publics pour les universités. On a énormément de mal à savoir comment est fléché cet argent, quelles sont la part de ce budget de l'apprentissage qui part au supérieur, qui part au secondaire.
Qu'est-ce qui explique, selon vous, le fait que des familles, aux revenus très très variés, hein, même des familles pas très aisées et des étudiants, soient consentantes pour payer, parce qu'on parle de 10 000 euros par an, hein, un peu en moyenne.
En moyenne, c'est ça. C'est entre 6 000 pour les formations les moins chères, pour le dire comme ça, et voire 14 000, 15 000 pour les formations. Mais pas forcément les écoles de commerce type HEC, également des formations non certifiées. C'est ça qui pose question. Ça rejoint quelques travaux de la sociologie sur la sociologie des prix. Si c'est payant, c'est que c'est bien. Il y a un espèce de signal prix, un peu comme une voiture. Alors, il y avait un universitaire qui disait que les formations publiques, c'était des Porsche vendues au prix des Dacia. Et les formations privées, c'était des Dacia vendues au prix des Porsche. Les formations privées, y compris celles qui ne permettent pas, celles qui sont des Dacia vendues au prix des Porsche, se positionnent sur une rhétorique de luxe, montée en prestige, sur une rhétorique sur les effets hôtellerie, sur le prestige, avec c'est le terme bachelor, c'est le terme de, enfin c'est toute la rhétorique sur la mobilité internationale, sur les partenariats. Toutes les écoles affichent des partenariats avec Louis Vuitton, Jessica Poté, Anne-Claudine Oller et Agnès Van Zanten qui ont parlé de marché de l'enchantement. D'espace d'enchantement, je ne sais pas comment ils l'ont formulé, mais c'était ça. Les salons sont vraiment des espaces marchands où l'enchantement domine et où les écoles vont jouer sur une rhétorique en trois dimensions. Court terme, donc c'est anti-parcoursup. Venez chez nous, les procédures sont humaines, simplifiées, rapides. Vous aurez une réponse la semaine prochaine. Sortez-vous des formations publiques, etc. à moyen terme une vie étudiante de rêve, des campus américains, des week-ends d'intégration, etc. Et à long terme, une vie professionnelle de rêve, une insertion à 95% de chances de trouver un emploi dans des secteurs d'activité, dans le luxe, etc. Je suis jeune et ça m'a pas mal bénéficié. Je me comportais comme un étudiant en réorientation. Je me disais, comment je fais pour payer tout ça? Ben, si vous voulez, vous allez, sans donner de marque, à la banque qui est juste à côté, et vous pouvez demander, on a un partenariat avec elle, pour souscrire à un prêt à quelques pourcents ou à un demi-pourcent, parce qu'on a négocié avec elle d'avoir pour nos étudiants un prêt. Voilà.
France Culture. Être et savoir. Louise Tourret.
Et cet épisode est consacré à la crise de l'université. Peut-elle continuer à vivre ou est-elle aujourd'hui dans des conditions de survie? Dans cette deuxième partie, on se demande à qui profite la crise. Alors Mathis d'Aquino, jeune chercheur à Sciences Po, même pas l'Université Bordeaux, a donné sa réponse. Je vais vous poser un petit peu la même question. Anne Roger, vous qui êtes enseignante en STAPS, est-ce que pour vous, il y aurait des groupes d'intérêt, des écoles, des personnes qui auraient intérêt à ce que l'université périclite?
Mathis l'a bien évoqué, hein, on a quand même, et vous l'aviez dit tout à l'heure, le privé évidemment est le premier gagnant puisque plus d'un quart des étudiants sont dans le privé, mais ce qui est à dire, c'est que c'est quand même aussi subventionné par l'État, cette affaire-là. Donc l'État a augmenté sa subvention de 20% pour l'enseignement privé contre 12% seulement pour le public entre 2017 et 2023. Donc c'est un projet sciemment mené par le gouvernement. Alors à qui ça profite encore? Le privé, juste, je voudrais dire, pour illustrer encore plus clairement, on a eu une séance du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche qui étudie un petit peu les diplômes à valider sur lesquels on est d'accord. On a examiné une vingtaine de formations de bachelor le mardi dernier, dont un quand même avait des frais qui montaient à 44 000 euros par an, parce que vous avez évoqué 20 000 euros tout à l'heure, mais ça va bien plus loin que ça. 44 000 pour un bachelor. On a eu aussi un bachelor de hautes études pluridisciplinaires pour top athlètes qui concerne la concurrence directe avec les STAPS, qui est affiché avec des frais d'inscription de 21 000 euros. Et donc ça profite au privé, tout en trompant un petit en plus les étudiants, parce que le cahier des charges n'est pas respecté. Hein, parce que vous savez que dans le service public, on a un cahier des charges très lourd pour être labellisé par l'État. On doit réaliser des heures, 40% des heures doivent être, plus de 40% des heures doivent être réalisées par des titulaires. On doit avoir plus de 25% d'enseignants-chercheurs. On doit faire une initiation à la recherche. On doit avoir un labo de recherche. On doit avoir des coûts d'inscription qui sont, ça doit être gratuit, quoi, qui ne doivent juste être que pour, en tout cas, pas très élevés. On doit avoir un nombre d'heures suffisant. On doit avoir des nombres de boursiers qui sont aussi suffisants. Or, tout ça, les formations privées, elles ne le respectent pas. Donc, en fait, c'est vraiment tout gagnant pour le privé. Mais si on veut prendre un petit peu de hauteur, parce que peut-être que là, on parle de qui est gagnant d'un point de vue économique. Mais d'un point de vue social, finalement, qui c'est qui gagne? C'est tous ceux qui ont intérêt à tuer l'esprit critique et le débat. Parce que l'université est un lieu de débat, est un lieu de formation, d'élévation du niveau scientifique, culturel, professionnel. C'est un lieu où on lutte contre les discriminations, où on forme les étudiants à l'esprit critique, je l'ai déjà dit. Et donc ça, ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont intérêt à ce que ça ne se mette pas en place. Qui a intérêt à ce que ça ne se mette pas en place? Eh bien, toutes les extrêmes, l'extrême droite, tous les obscurantistes, tous ceux qui y perdraient à ce qu'on remette en cause un modèle social qui, de plus en plus, favorise les plus aisés. Donc, je pense que ça, c'est aussi important à avoir en tête quand on dit à qui profite la crise. On ne doit pas raisonner qu'en termes économiques. On doit aussi raisonner en termes d'avenir et en termes social. Parce que justement, l'avenir, il est fortement en danger, et la démocratie également. Et je pense qu'en tuant l'université, on tue aussi l'espoir que la démocratie puisse continuer à vivre. Donc pour moi, c'est un sujet extrêmement, extrêmement grave.
Et un message très fort ce soir, Anne Roger. Alors, Édouard Kaminski, même question. Est-ce que pour vous, les difficultés de l'université profitent à des acteurs divers et variés, et pourquoi?
Alors, je vais compléter ce qui a été dit et ce à quoi je souscris totalement. Je pense qu'en plus, ce sont les puissances étrangères qui profitent de ce manque d'investissement dans les universités. Tous les grands pays misent sur leurs universités pour être compétitifs dans la recherche. C'est grâce à la recherche qui est menée dans les universités que l'on peut, une fois de plus, prendre de l'avance sur la transition écologique, sur les nouvelles technologies. C'est grâce à la recherche et à la qualité des enseignements dans les universités que l'on attire aussi des étudiants internationaux. Donc il faut redire que l'accueil d'étudiants internationaux correspond à une richesse pour un pays. Et clairement, si vous n'avez pas des universités puissantes et bien financées, eh bien vous dégradez l'image de votre pays à l'international, vous perdez des parts de marché en termes de soft power. Ce n'est pas avec des universités médiocrement financées que vous allez attirer les talents à l'international. Ce n'est pas possible.
Mais... Donc, voilà. Pardon. Vous savez, comme moi, Édouard Kaminski, qu'en France, ce qui est perçu comme prestigieux, ce n'est pas l'université, même si on peut parler pour les plus belles formations de Porsche, je ne sais pas si j'aime beaucoup d'ailleurs cette image automobile, ce sont les grandes écoles, publiques ou privées, c'est les filières qui passent par des sélections beaucoup plus fortes, les classes préparatoires, ce sont aussi des formations dont ne sont pas issues les élites politiques, nos élus, pour le dire vite, majoritairement.
Alors vous mettez le doigt sur un point qui est central. Vous comparez l'Allemagne avec Angela Merkel, qui avait un doctorat, et puis effectivement la France, où ce diplôme est encore très peu répandu dans les milieux politiques. Clairement, l'université est victime d'une image qui ne correspond pas à la réalité. C'est pour ça que je ne suis pas si négatif sur Parcoursup, parce que Parcoursup a montré que l'université, ce n'était pas un choix par défaut, mais que ça devait être un choix réfléchi. Le classement de Shanghai, qui est très critiqué et qui est très critiquable, a quand même montré que les universités, c'était important à l'international et que le modèle de prestige en recherche, en enseignement des pays, c'était bien l'université.
Alors, dites-nous, qu'est-ce que ça change d'avoir un doctorat? Quelle approche intellectuelle du monde? Alors, il y a beaucoup de disciplines différentes dans lesquelles on peut décrocher un doctorat si on y consacre une bonne partie de sa vie. C'est pas facile, d'ailleurs, d'être en thèse. Qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça pourrait changer d'avoir un personnel politique davantage issu de la recherche et de l'université?
Alors, donc, le doctorat, ça vous permet d'avoir une capacité de prise de décision en autonomie après une analyse. Donc vous n'êtes pas toujours dans la boîte, mais avec le doctorat, vous apprenez à regarder le tour de la boîte et vous êtes capable de sortir de la boîte lorsque c'est nécessaire. Être en doctorat, ça veut dire s'être posé un sujet complexe et avoir mis 3 à 5 ans pour le résoudre. Ça veut dire avoir été capable d'aller chercher des ressources en bibliographie, d'avoir pris des risques pour faire des expériences. Donc c'est vraiment un apprentissage qui n'a pas d'équivalent dans la mesure où vous devez être capable de vous asseoir sur un ensemble de ressources et vous devez être capable d'aller chercher la bonne ressource au bon moment en autonomie. Vous devez être capable de créer la connaissance et pas simplement d'utiliser la connaissance. Ce que l'on dit souvent dans les universités et dans les entreprises étrangères, c'est qu'un ingénieur français ou une ingénieure, c'est quelqu'un qui va être très efficace dès le départ, mais qui ne va pas changer vos process. Un docteur, il va arriver, il va être plus critique sur les process et va vous permettre de les faire évoluer, de les rendre plus performants. Et surtout, il va permettre à votre entreprise de capter le progrès au fur et à mesure parce qu'il a été formé pour ça, il a été formé par le progrès.
Ça doit être intéressant pour les titulaires de doctorat qui nous écoutent parce qu'eux-mêmes ont du mal à se faire embaucher au sein de l'université, par exemple, mais aussi dans le monde professionnel. Alors évidemment, ça dépend. Quand on est médecin et docteur, c'est tout à fait différent. Mais qu'on parle de sciences humaines ou même de sciences dures, on n'a pas forcément des postes à rémunérer à la hauteur de ces années d'études. Donc il y a la beauté du geste, évidemment, et l'ampleur intellectuelle de ce travail. Ce soir, on a compris qu'on défendait plutôt l'université, mais il y a la réalité de la vie professionnelle aussi.
Oui, c'est vrai que pendant très longtemps, les doctorats n'ont pas été dans les conventions collectives. On travaille encore à la reconnaissance des compétences du doctorat. Ça se fera quand même au fur et à mesure par la construction de réseaux alumni, parce que c'est vrai aussi que dans une entreprise, bien, quand vous avez un réseau qui est très nourri par les grandes écoles, ben, ce réseau a tendance à s'auto-reproduire. Donc il faut progressivement injecter du doctorat. Alumni, donc des anciens étudiants d'une université ou d'une grande école. Lorsque les personnes qui sont en charge du recrutement sont elles-mêmes titulaires d'un doctorat, elles n'ont pas le même regard sur les candidates et les candidats qui viennent avec un doctorat, bien sûr.
Alors aujourd'hui, le président de la République, enfin c'était il y a 2 ans, parle beaucoup d'orientation des jeunes vers l'emploi pour l'université. Et en préparant l'émission, on n'a pas eu le temps de la diffuser, mais on écoutait des archives de 1986, la loi de Vaquet. Finalement, tout ce qu'on a reproché à cette époque à l'université, à part les frais d'inscription, est advenu. C'est-à-dire une forme de sélection, bon, c'est quand même un peu Parcoursup avec un fléchage, un très fort poids de la professionnalisation, des diplômes qui ont toujours un caractère national, évidemment, mais avec des conditions, on l'a entendu aussi, très différentes, suivant les universités, les financements qui ne sont pas les mêmes. Est-ce que cette transformation peut être arrêtée, peut être changée? Et qu'est-ce qu'il faudrait à l'université aujourd'hui pour qu'elle soit bien plus heureuse en tant que grande institution de ce pays millénaire?
Alors, je vais quand même me permettre une dernière fois de revenir sur Parcoursup pour rappeler que les formations universitaires ont toujours été sélectives, puisque c'était premier arrivé, premier servi, et lorsque toutes les places étaient prises, il n'y avait plus de place.
C'est vrai, on a fait la queue.
Voilà, donc moi je suis quand même pour la transparence et je trouve que c'est plus clair aujourd'hui d'assumer le fait qu'il n'y a pas de place pour tous les étudiants dans toutes les formations. Mon université, qui est une très grande université en santé notamment, forme 700 médecins par an. On ne peut pas passer à 1400 médecins parce qu'il n'y aura plus de terrain de stage au sein des hôpitaux parisiens pour les accueillir. Donc il y a toujours une limite physique. Nos universités se sont transformées. Elles sont aujourd'hui extrêmement performantes pour l'insertion professionnelle. Elles ont soit des recherches très intensives, soit des recherches de niche, avec des liens très forts avec le monde socio-économique. Je rappelle qu'aujourd'hui, quand vous injectez 1 euro dans une université, vous retrouvez 3 euros d'activité économique. Donc les universités sont vraiment un investissement aujourd'hui. Elles sont vraiment dans un modèle international. Ce qu'il faut, c'est ne pas couper leur élan. Or aujourd'hui, faire peser aux universités et à la recherche les économies de court terme nécessaires pour boucler le budget du pays, c'est couper leur élan et c'est les empêcher de continuer à amener le pays vers un avenir radieux.
Anne Roger, faites bien attention à l'heure, vous avez 1 minute. Qu'est-ce que vous attendriez dans l'idéal pour demain, pour l'université française ?
Ben moi, je dis qu'il faut surtout refaire confiance aux enseignants, chercheurs, leur laisser garder la maîtrise de leur outil de travail et ne pas transformer l'université en entreprise et uniquement en un enjeu économique. Les doctorants, avant d'aller dans l'entreprise, je souhaiterais qu'ils restent d'abord à l'université pour faire la recherche à l'université et je souhaiterais que l'université, elle reste humaine et humaniste. Et ça, pour ça, il faut faire confiance aux enseignants. Il faut que ce soit eux qui aient le contrôle et pas que l'on leur prenne leur outil de travail.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Pour vous n'avez pas toujours été d'accord d'ailleurs sur Parcoursup, donc on peut dire que cette émission était un débat. Merci également à Mathis D'Aquino et à l'enseignante, du coup, j'ai plus mon papier, qui est intervenu, c'était Rita Novas qui est intervenu dans la première partie de cette émission Être et Savoir, donc que vous pouvez aussi retrouver en podcast quand vous voulez sur la plateforme de Radio France par exemple.